C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Le climat se réchauffe, la biodiversité disparaît. Nous, les humains, sommes en train de remettre en cause l'habitabilité de la Terre à une vitesse vertigineuse, au risque même de menacer l'avenir de notre propre espèce. Alors on fait quoi ? Eh bien, on agit. Vous allez l'entendre dans cette émission, l'économie de la transition est en marche. Partout dans le monde, des femmes et des hommes innovent dans la mobilité, l'agriculture, la gestion des déchets ou l'habitat. C'est enthousiasmant, alors pourquoi pas vous ? Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Martin Durigneux.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Anciela et le cofondateur de l'Institut Transition. Anciela, c'est une association lyonnaise qui accompagne les initiatives de la transition écologique et solidaire depuis plus de 10 ans. L'Institut Transition, ça a été créé pour accompagner les professionnels qui souhaitent se lancer dans cette transition. Vous avez donc créé cet institut il y a à peu près 2 ans. Tout ça vous donne une sorte de promontoire d'observation pour publier le rapport sur l'économie et les métiers de la transition que vous observez et accompagnez. Quand on parle de transition écologique, pour vous, c'est quoi ? Comment est-ce que vous la définiriez ?
Alors nous, ce qu'on appelle économie de la transition, c'est un concept qu'on appelle artisanal, c'est-à-dire que Baptiste Morisot parle d'artisanat conceptuel. C'est un artisanat conceptuel. C'est un mot assez simple qui nous permet de parler en fait des entreprises et des associations qui fabriquent la bascule de notre économie. Ces jeunes pousses qui aujourd'hui sont en train d'inventer les solutions et qui permettront au XXIe siècle d'inventer les métiers et les pratiques et les solutions qui nous permettront de vivre dans une société écologique, solidaire, conviviale, telle qu'on peut la rêver aujourd'hui et telle qu'on espère que nos enfants la vivront demain.
Donc vous parlez d'économie de la transition et pas de croissance verte.
Oui, effectivement, on a distingué cette économie de la transition de deux notions qui sont importantes malgré tout. Celle d'économie verte, qui est assez célèbre parce qu'elle est utilisée dans toutes les institutions internationales et dans les institutions nationales en France, pour décrire en fait un ensemble de secteurs d'activité, que sont certains transports, les énergies renouvelables en particulier, la rénovation énergétique de logements en particulier. Mais en fait, cette économie verte, elle décrit des secteurs d'activité. Elle ne décrit pas du tout leur pertinence en termes d'écologie, ni leur volonté de transition. Donc on peut, si vous bossez dans une grande entreprise de gestion des déchets, ici en France, mais des entreprises qui travaillent aussi en Afrique, qui travaillent aussi en Amérique latine, vous êtes dans cette économie verte. Et pourtant, cette entreprise est probablement une des plus toxiques en termes de gestion de notre environnement, puisqu'elle va gérer des incinérateurs, des décharges. Donc en fait, ça ne décrit pas le mouvement par lequel notre économie change, ça décrit les secteurs qui doivent bouger. Et on a un autre terme qui est celui d'économie verdissante, qui est le terme aussi le plus commun, qui parle en fait des structures qui doivent bouger, mais c'est toutes les structures qui doivent bouger. C'est depuis les dentistes jusqu'aux plombiers, en passant par les industries de verre ou de métallurgie, qui doivent changer pour s'adapter aux enjeux de la transition écologique. Et là, c'est comment les métiers changent à la marge, on va dire. Et cette économie verdissante est extrêmement importante. Par contre, ce n'est pas le fer de lance. Il faut qu'il y ait des entreprises qui inventent des solutions, il faut qu'il y ait des associations et des entreprises qui soient en capacité d'accompagner les entreprises classiques à basculer dans la transition. Et c'est ces entreprises, on va dire, qui portent des solutions entre guillemets innovantes et originales que nous, on va étudier dans cette économie de la transition. On s'intéresse au fer de lance de la transition parce que c'est de là que part la bascule.
Alors, cette économie de la transition, elle s'incarne par quoi, du coup ?
Elle s'incarne, je dirais, dans trois processus qui sont complémentaires. Le premier, c'est pour qu'il y ait économie, il faut qu'il y ait des citoyens et des citoyennes qui aient envie de consommer, envie d'utiliser, envie de se servir de solutions, de produits, de services qui sont écologiques, solidaires, conviviaux. Et pour ça, en fait, il faut une transformation de notre consommation, ce qui est absolument indispensable parce que c'est elle qui est initiale. Même s'il n'y a pas encore les solutions, il y aura des frémissements qui amèneront des entrepreneurs et des entrepreneuses à se dire peut-être que là, il y a un truc à faire parce qu'on sent que les gens, ils sont en demande. On le voit dans le champ du zéro déchet, par exemple, où il y a eu un fleurissement de solutions parce qu'il y a eu un mouvement citoyen autour d'abord d'un bouquin et puis de quelques personnalités un peu célèbres comme Bea Johnson qui ont initié en fait un grand mouvement. Et aujourd'hui, il y a un fleurissement de solutions avec des gens qui sont réellement à fond écolo et d'autres qui sont un peu opportunistes et qui se lancent pour proposer des trucs. Il y a plein qui ne marcheront pas et d'autres qui marcheront très bien. Et on a besoin de ce premier mouvement. Et après, il y a un deuxième mouvement qui est absolument indispensable dans cette économie de la transition, c'est celui de cette émergence des entrepreneurs-entrepreneuses qu'elles soient en association ou en entreprise, qui vont répondre, ou même parfois dans des institutions publiques qui proposent des solutions, qui vont répondre à ces besoins et ce qu'on va appeler, nous, les jeunes pousses de la transition, qui est notre cœur d'étude. Puis un troisième mouvement, c'est celui de cette économie verdissante, c'est-à-dire celui par lequel le reste de l'économie suit. Et je tiens à être assez ferme avec les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. On est sur un grand changement civilisationnel. Ma profession initiale, c'est d'être économiste. En tout cas, ma passion initiale, c'est d'être économiste. Les grandes transformations civilisationnelles ne se font pas avec un changement des entreprises existantes. Il y a des entreprises existantes qui vont changer et qui vont évoluer, mais il y aura un grand renouvellement de ces entreprises. Donc aujourd'hui, oui, il y a des entreprises qui vont bouger, mais il ne faut pas attendre que ce soit les entreprises qui bougent entièrement. C'est aussi plein de nouvelles entreprises et plein de nouvelles associations qui vont se créer, qui vont proposer des solutions.
Vous parlez de bouleversement civilisationnel, c'est-à-dire que vraiment, c'est passer du tout au tout.
Non, c'est beaucoup plus profond. Marx avait une image qui était assez intéressante. Il parlait d'évolution révolutionnaire, qui distinguait d'un certain point de vue de la révolution, qui arrive quand en fait, les rouages de la société sont bloqués et qu'il y a une explosion sociale parce que la société n'a pas évolué. Et lui, étudiant la fin du Moyen-Âge, montrait qu'en Italie, en Allemagne et en Angleterre, il n'y avait pas eu de processus de révolution comparable à la Révolution française. Si en France, il y avait eu la Révolution française, c'est que les rouages étaient bloqués. Donc il ne s'agit pas d'une révolution avec perte et fracas, il s'agit d'une évolution révolutionnaire, d'une transformation de notre civilisation, comme on a pu la connaître, je dirais, à la fin du Moyen-Âge, et comme on a pu la connaître au milieu du 19e et jusqu'au milieu du 20e avec le processus d'industrialisation et de mécanisation. Donc on a des grandes transformations, et dans une certaine mesure, même comme on a pu le connaître avec le numérique, mais qui n'a touché qu'un secteur. Là, la transition écologique, c'est en fait une transformation de notre lien au vivant, notre lien aux autres, notre lien à la nature, à ses limites, mais aussi à sa richesse. Et cette grande transformation-là, elle implique nécessairement de réinventer un nombre significatif de modes d'organisation, de modes de production et de modes de consommation. Donc en cela, c'est un grand virage civilisationnel qu'on est en train d'opérer et où notre économie sera évidemment décisive parce que c'est dans notre économie qu'on fabrique la plupart des ressources qui sont mobilisées dans notre société et dans notre civilisation.
Mais comment est-ce qu'on passe de la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui à celle qu'il faut faire advenir pour répondre aux impératifs écologiques que sont notamment le dérèglement du climat et la disparition massive de la biodiversité?
C'est là que la promesse un peu de moins de travail ne va pas encore être tout à fait celle de notre génération, parce que en tout cas ceux qui vont se plonger dans ce monde de la transition, il y a du boulot quoi. Il y a du boulot au four, au moulin et à la boulangerie quoi, parce que en fait tout est à inventer. C'est très stimulant d'un point de vue intellectuel, c'est très stimulant d'un point de vue de personne qui a envie de vivre une vie riche et accomplie. Par contre, ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où aujourd'hui se fabriquent ces solutions et elles ont besoin de monde pour les aider à grandir. Et puis c'est ici à Lyon, puisqu'on est lyonnais, c'est aussi partout en France, c'est aussi partout dans le monde méditerranéen, c'est aussi partout dans le monde africain, c'est partout au Japon, aux États-Unis, etc. quoi. Donc ces mouvements, on va dire, partout à travers le monde nécessitent que plein de personnes à leur petite échelle soient au four, au moulin et à fabriquer des solutions. Donc c'est plein de jeunes pousses qui sont en train de grandir, plein d'endroits où aujourd'hui se transforme notre économie. Et c'est vraiment des métiers qui n'ont strictement rien à voir, mais qui portent tous une valeur et une authenticité de transformation de notre société.
Et pour incarner cette évolution révolutionnaire dont parlait Martin Durigneux, nous sommes allés à la rencontre de quelques jeunes pousses fertiles sur le terrain de l'économie de la transition. La mobilité, par exemple, est en plein bouleversement. Après des décennies de règne automobile, le vélo est en plein boom. Économique, fiable et efficace, son usage transforme de nombreuses villes dans le monde. Priscilla Petitjean l'a bien compris. Elle nous accueille dans sa structure, les ateliers de l'Audace, situés en plein centre de Lyon, juste à côté, bien entendu, d'une piste cyclable.
Et bienvenue. Rentrez, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Remplacer mes pneus par ces pneus.
Ah, vert.
Voilà.
Saint-Étienne ou l'espoir ?
Comme vous voulez.
Bienvenue à l'atelier, je vais vous faire visiter l'espace. Et du coup, là vous êtes au niveau de l'accueil, c'est l'endroit où quand vous avez votre vélo qui est cassé, que vous voulez faire réparer, eh bien, vous passez la porte et vous êtes accueilli directement par nos salariés en insertion. Ça c'est génial, ça crée une vraie rencontre parce que souvent la plupart de nos clients n'ont aucune idée que les personnes qui sont à leur rencontre, du coup, sont des personnes issues de l'insertion. Ça permet de dépasser les clivages. Et du coup, c'est là où votre vélo, on va faire un vrai diagnostic pour pouvoir identifier quelle est la panne et vous proposer forcément une révision et les réparations qui s'imposent. Votre vélo, une fois qu'on a un diagnostic, il part directement à l'atelier.
L'atelier, c'est à côté, c'est écrit sur la porte. Donc là, il y a plein de vélos qui sont tous en attente d'être réparés.
C'est ça, donc c'est un atelier, hein, donc il faut imaginer, il y a des pièces un peu partout, il y a des établis, il y a des pieds de réparation, il y a des outils. Et oui, on a mis en place différentes zones et différents flux pour qu'on puisse traiter les vélos par ordre d'arrivée, par ordre d'urgence, suivant l'état des pièces, etc. Et on a également mis en place un process qualité qui fait qu'en fait, une fois que le vélo est réparé, il y a forcément un test, une vérification qui est faite par des personnes diplômées pour assurer le meilleur niveau de réparation à nos clients. Depuis janvier, on a eu plus de 600 nouveaux clients. Donc, c'est fait quand même pas mal de personnes qui roulent et qui sont sur leur vélo avec nous. Donc, il y a une vraie nécessité de les mettre en sécurité et de garantir que tout va bien se passer pour eux en nous faisant confiance.
Il y a donc des diplômes de réparateurs de vélo.
Incroyable, mais vrai. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai d'abord été mécanicienne. Il n'y avait pas de diplôme à l'époque. C'était vraiment sur ce qu'on appelle un peu l'intelligence mécanique. Et maintenant, donc, il y a eu une évolution. Et je suis très fière de dire qu'il y a des personnes qui sont parties de l'atelier et qui ont été formées donc, chez nous en insertion et qui sont déjà diplômées, qui ont déjà leur CQP.
À côté, il y a une grande cour dans laquelle il y a plein de vélos. C'est votre lieu de stockage?
Alors, pas uniquement. C'est-à-dire que c'est aussi notre boutique, à savoir... Nous, on est aussi énormément sur tout ce qui est économie circulaire. Donc, il y a énormément de vélos qui sont jetés chaque année, environ 27 000 tonnes de déchets, c'est environ 1,2 million de vélos jetés chaque année, en France uniquement. Et quand on sait qu'il y a des pénuries partout, que les gens cherchent des vélos et que c'est une vraie galère, je pense qu'il y a une nécessité en fait, à s'interroger sur la façon dont on consomme, que le vélo soit écologique non pas uniquement dans son utilisation, mais également dans son traitement et sa production, à savoir les recycler et les réuser. Donc tous ces vélos que vous voyez là qui sont beaux et qui brillent, sont des vélos qu'on nous a donnés, qui sont issus donc, des caves, qui sont issus des greniers, des fonds de cour, que plus personne n'en avait l'usage. Nous ici, on les répare, on les bichonne, on les remet en sécurité et on les revend et à des prix qui sont accessibles à tous. Parce qu'il y a aussi un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est celui de l'accès au vélo pour des personnes qui ont des revenus modestes. Et en France, il faut savoir qu'actuellement, le prix moyen de vente d'un vélo, c'est 707 euros. Surtout qu'il y a un gros courant qui tend à la culpabilisation des plus fragiles en leur disant si tu n'as pas le moyen de transport pour aller au travail, t'as qu'à prendre un vélo sur Internet d'occasion à 50 euros. Sauf que déjà, en fait, le vélo ne sera pas forcément adapté à l'usage qu'on veut en faire, à la taille de la personne qui n'y connaîtra rien, qui n'aura aucun conseil. Et enfin, il n'y aura aucune certitude que ce soit en sécurité. Donc il y a une vraie nécessité que des acteurs se mobilisent pour compléter l'offre et la rendre accessible.
Alors le boom du vélo en France, c'est notamment le vélo électrique. Vous en vendez aussi ?
Alors j'appelle à avoir une attention sur nos façons de consommer. Les vélos électriques, ça a une durée de vie qui est comptée, qui est limitée. Et même également au niveau des composants, de l'électronique, du tableau, de la console. Il y a eu tellement un boom sur l'électrique qu'il n'y a eu aucune garantie constructeur au niveau des pièces. Qu'il y a beaucoup d'usines à vélo qui se sont créées, qui ont été rachetées, qui ont été dissous. Et du coup, on n'a plus la trace aujourd'hui, ni des constructeurs, ni des composants. Donc on sait que quand la vague de l'électrique va arriver d'ici 2-3 ans, au bout de sa durée de vie qui est très courte, on va avoir un véritable tsunami.
Comment est-ce que vous avez eu... Oui, on va rentrer parce que là, il y a un bruit de travaux. Comment est-ce que vous avez eu cette idée, Priscilla Petitjean, de vous lancer dans cette aventure du vélo? C'était quoi votre formation de base?
Quand on est petit, je pense qu'il y en a qui veulent être médecin, d'autres qui veulent être pompier. Moi, j'ai toujours voulu être dans l'humain. C'était la seule chose qui me semblait à peu près sensée. Du coup, j'ai regardé les métiers humains, ça a donné humanitaire. Et du coup, j'ai eu un début de carrière à l'étranger et qui s'est soldé notamment par une expérience en Côte d'Ivoire, juste après la guerre civile, qui a été particulièrement... mémorable. Et du coup, je suis revenue en France en me disant que j'allais revenir à des choses qui me faisaient du bien. Et du coup, j'ai été indépendante très tôt, très jeune. Il a fallu bosser, il a fallu payer mes études, il a fallu aller au boulot. Et pour tout ça, j'ai pris, avec mes maigres revenus de l'époque, un vélo à 40 euros au marché, qui, au bout de, une semaine ou deux, a commencé à me montrer des signes de faiblesse mécanique. il a fallu le réparer. Les réparations chez un vélociste étaient beaucoup trop onéreuses pour mon budget, donc j'ai commencé à réparer par moi-même. J'ai trouvé ça hyper gratifiant, ça m'a fait énormément du bien, donc j'ai commencé à vouloir travailler dans le vélo pour payer mes études. J'ai travaillé chez Vélove notamment, enfin, chez Cédéco, chez CycloCity. À l'époque, il n'y avait pas besoin de diplôme, tout allait bien. Et du coup, bah, suite à cette expérience à l'international où je suis revenue sur Lyon, voilà, je me suis remise dans des activités où j'avais mes repères. Et très rapidement, il y a une offre d'emploi qui est parue au foyer des sans-abri à Lyon, où ils cherchaient un peu un mouton à cinq pattes pour lancer un atelier vélo pour former les sans-abri. Et du coup, je me suis dit, mais ce job est absolument fait pour moi. Du coup, j'ai été recrutée et après 4 ans d'expérience chez eux, j'ai pu faire 2 constats. La première, c'est que cette petite structure qui était considérée un peu comme une lubie initialement, bah, en fait, a eu des résultats prodigieux sur un plan humain. C'est-à-dire qu'en quelques années, avec très peu de moyens, on avait eu des meilleurs résultats que des structures dédiées depuis des décennies à l'insertion. En termes de sortie dynamique, c'est vraiment le retour à l'emploi, le retour au logement, le retour aux études ou le retour juste au lien, à la sociabilité. Et le deuxième constat, c'était effectivement les déchets vélos qui venaient de toutes parts, il y en a de partout. Il faut savoir qu'actuellement, en fait, un vélo n'est pas recyclé. Quand vous mettez un vélo à la déchetterie, c'est majoritairement du métal, bah, en fait, ça va être broyé, mais il n'y aura rien qui en sera fait. Donc il y avait une vraie nécessité d'agir et du coup j'en ai parlé aux fous et aux inconscients qui étaient autour de moi. Je leur ai dit, ouais, venez, on va réparer des vélos, ça va être génial, on va faire un vrai projet social. Et je pense qu'on a eu raison de nous faire confiance parce qu'aujourd'hui Atelier Audace, c'est 32 emplois qui ont été créés et on va dire, j'espère, de belles perspectives encore à proposer.
Bonjour. Comment vous appelez?
Je m'appelle Solomon.
Et qu'est-ce que vous faites, Solomon, là?
Moi, je commence hier, ce vélo-là, il est cassé, ça c'est vélo des clients.
Et comment vous êtes arrivé aux ateliers de l'Audace?
J'étais en formation du cours de français, après que Hook m'a envoyé ici. Et voilà, c'est très bien, moi je suis content, je suis là, j'ai appris un mécanicien vélo ici. Jamais travaillé avant, c'est mécanicien vélo, déjà travaillé autre vélo, autre travail, autre métier.
Ça vous plaît?
Oh, oui, ça va, oui.
Et vous venez d'où?
D'Érythrée.
Pourquoi vous êtes venu en France?
Je ne sais pas. Moi, je pense jamais sortir de mon origine, mais après, je ne sais pas si la vie, ça change. Après, je vais sortir. Et mon famille, ils sont tous ils sont là au Canada, moi, je suis là. Ça veut dire que si ma mère, sœur et frère, ils sont là, à Toronto, au Canada, moi, je suis là. J'ai changé la vie, donc voilà.
Bon, je vous laisse continuer à réparer votre vélo. Merci beaucoup.
D'accord, merci à vous, madame. Salut, au revoir.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je fais la fiche de vérification. Vérification pour le vélo, tout le vélo, il faut serrage, tout, réglage, tout.
Tout, la totale.
Voilà, la totale.
Vous en faites combien par jour des vélos comme ça?
Moi, des fois, je fais 8.
Ah ouais, 8 ah ouais. Par jour. Et vous saviez faire ça avant ou vous avez appris ici?
J'étais électricien auto. Après, je suis arrêté pour mon dos. Et après, j'ai repris la mécanique un peu. Après, je me suis mécanique à vélo. Je ne savais pas, mais maintenant, c'est ma passion de vélo.
De la voiture au vélo, vous êtes dans le sens de l'histoire, en fait.
Voilà. C'est ça.
Et alors, quand vous parlez d'insertion, qui sont les personnes qui travaillent avec vous?
Il y a des personnes de tout horizon. C'est-à-dire que les publics fragiles sont multiples. Il y a des personnes qui viennent de ce qu'on appelle des QPV, donc les quartiers politiques de la ville. Voilà, donc vous imaginez bien les quartiers en périphérie, etc., les banlieues. Vous avez des personnes qui ont eu des grosses ruptures sociales, des moments dans la vie où il y a eu une cassure et où du coup, bah, voilà, il faut redémarrer. Et je pense notamment là, à la crise du Covid qui a provoqué beaucoup de personnes en situation de précarité. Je pense également à des personnes qui n'ont jamais réussi à adhérer à notre société comme elle est conçue, parce qu'une manière ou d'une autre, notre société est assez excluante, hein, je pense qu'il faut le dire. Et du coup, il y a une nécessité de créer des zones un peu comme ça d'accueil. Et enfin, il y a des personnes avec des handicaps, que ce soit des handicaps moteurs, des handicaps physiques. Il y a des personnes qui ont des situations d'addiction. C'est très vaste. Et on a aussi, je pense qu'il faut vraiment se mobiliser sur le sujet, des jeunes en décrochage scolaire. de 16 à 25 ans. Il y a une vraie nécessité encore de se dire qu'il y a peut-être besoin d'un SaaS pour ces profils en particulier et qui, malheureusement, on peut le voir, sont de plus en plus nombreux. Donc voilà nos publics et c'est super parce qu'en fait, ça permet d'avoir une variété de profils et d'avoir ici comme une espèce d'éprouvette, d'incubateur de la société et d'amener les uns et les autres à non pas uniquement considérer leur propre fragilité, mais se rendre compte qu'il y a celle des autres autour et à créer un véritable échange.
Le vélo, ce n'est pas de bruit, pas de gaz à effet de serre, c'est aussi un rapport à son environnement différent. On est à l'extérieur, on peut observer les paysages, échanger avec les gens au feu rouge, etc. C'est une autre façon de se déplacer, c'est un autre rapport à la ville. Et ça, c'est aussi important dans son rapport à l'environnement.
Oui, il y a énormément de choses sur les aspects du vélo, en quoi c'est très positif pour tout le monde. Et donc, du coup, j'invite tout le monde à faire du vélo. Il y a un vrai vecteur d'émancipation par rapport soit aux femmes, soit par rapport aux publics les plus fragiles. Parce qu'il y a toute une métaphore de se remettre en selle, se placer aux commandes, reprendre les choses en main, etc., avoir le pied à l'étrier. Et en fait, toutes ces métaphores-là, en fait, n'existent pas par hasard. Et on le constate, il y a des études sur le sujet qui permettent de dire, tout ce qui est empowerment, tout ce qui est de se saisir de sa vie et de se mobiliser grâce au vélo est en place. Donc c'est une première chose. La deuxième, c'est que les trajets qu'on fait un peu pendulaires, travail, maison, en fait, aujourd'hui, avec la voiture notamment ou le bus, c'est encore des lieux un peu d'agression où vous avez beaucoup de bruit, vous avez beaucoup de rapports aux autres, vous avez beaucoup de choses qui donnent des frustrations. À vélo, on a du coup pu faire ressortir le fait que c'était désormais un sas de décompression. Ça leur permet d'être plus ouvert après derrière aux autres, plus capable d'accepter des choses plus négatives, d'y réagir d'une meilleure façon. Bref, ça fait vraiment du bien de façon humaine à tout le monde et peut-être d'abord sur une échelle individuelle, mais au final, un plus un, ça fait vraiment une échelle plus globale.
Est un peu surréaliste. Nous sommes dans le 8e arrondissement de Lyon, devant le parc du Clos Laya, un jardin urbain. Et juste à côté de moi, vous l'entendez, il y a la rue avec les voitures qui passent. Et au loin, Bastien Massia arrive avec son troupeau de moutons. C'est surprenant, ça attire le regard des gens. On va lui demander du coup de nous expliquer sa démarche. Bonjour. C'est moi, Cécile, bonjour.
On va juste se mettre dans le
parc. Oui. Et là, il y a tout le troupeau de moutons qui est autour.
C'est par là, donc vous les voyez arriver en fait.
25 moutons qui sont ravis d'aller brouter de l'herbe.
On est là depuis
10h, enfin un peu moins de 10h, 10h moins le quart ce matin.
Et après on a fait un parcours entre le Clos Laya et la microferme des États-Unis.
C'est quelle distance?
C'est 5 km.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 km?
Eh ben, on a fait manger nos animaux du coup en pâturage itinérant, avec du coup la rencontre des habitants aussi, qui viennent souvent nous rencontrer dès qu'ils voient les animaux et qui posent des questions. Et on a aussi reçu des groupes de scolaires qui venaient du coup pour l'occasion découvrir les animaux d'élevage et nous poser des questions, quoi.
Certains n'avaient sans doute jamais vu de mouton de leur vie.
Et la plupart, je pense, les enfants en tout cas, n'avaient jamais vu de mouton de leur vie. Les adultes un peu plus, mais il y a quand même une forme de méconnaissance du comportement de ces animaux et des possibilités qu'il y a aussi en ville de pratiquer l'agriculture, où du coup on doit la faire de manière complètement différente, mais où il y a plein d'espaces naturels qui aujourd'hui ne sont pas forcément utilisés à des fins agricoles, mais qui pourraient avoir une vocation nourricière, en tout cas en partie à l'avenir, si on voulait mettre de l'énergie là-dedans, quoi. Et je vais juste, ça vous dérange si on continue?
Allez-y.
Après.
Vous allez faire quoi?
On va rentrer les animaux dans le camion pour qu'ils puissent rentrer dans leur lieu de résidence, qui est en ce moment à Rieux-la-Pape. Et du coup, là, on est en fin d'animation, donc on va rentrer les moutons avec les bénévoles.
Je vous laisse travailler.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous rassemblez le troupeau, là, pour qu'il aille vers le camion pour rentrer chez lui.
Vous êtes... Moi, je suis stagiaire. Ça fait 2 jours que je suis là. Mais voilà, l'idée, c'est de les ramener dans le camion, ramener à la maison.
Vous êtes stagiaire à la bergerie urbaine?
Ouais, c'est ça.
Vous appelez comment?
Lilou.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce stage?
Bah, je trouve ça curieux, en fait, avec mon école, justement, on les a croisés une fois, parce que je suis en école gestion et protection naturaliste. Et donc, je trouvais ça curieux, et comme je devais faire des stages, je leur ai demandé, et me voici. Et là, juste après cette sortie, je trouve que c'est franchement intéressant, de voir l'interaction avec les animaux, mais aussi ce que ça apporte avec les habitants, qui posent plein de questions, les enfants surtout. C'est un peu long, parfois, il y a certains moments où, du coup, les enfants, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les moutons, et ils font pas trop. Mais c'est super intéressant, ça apporte du nouveau en fait dans la ville, je trouve.
Et voilà, c'est le départ des moutons.
On peut faire des sorties depuis nos bergeries à pied. C'est seulement l'été, on est pas mal sollicité pour faire des animations pédagogiques. Là, en l'occurrence, avec la mairie du 8e aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu éloigné de notre site de bergerie qui est aujourd'hui à Rieux. Donc venir à pied de Rieux jusqu'à Lyon 8e, c'est un peu délicat, surtout qu'il faut rentrer le soir et faire un itinéraire à la journée. Donc ça fait beaucoup de route, mais dans l'idéal, on aimerait bien nous se servir bien sûr moins du camion. Et il y a déjà pas mal de moments dans l'année où on sort en fait autour de nos bergeries dans un objectif vraiment de nourrir nos animaux. Parce que ce principe de pâturage itinérant, il est pertinent en ville du fait que nos espaces de prairies sont plus petits qu'en campagne. Donc pour apporter de la ressource fourragère en quantité suffisante aux animaux, il y a un vrai intérêt à se déplacer dans les espaces naturels urbains autour de nos sites de gestion, parce que du coup on va trouver de l'herbe qui appartient à l'espace public, mais qui du coup le temps d'une après-midi ou de quelques heures peut avoir une vocation agricole et puis nourrir nos animaux, en tout cas ponctuellement, quoi.
Quoi la suite de la journée?
Alors la suite de la journée, il y a un peu de travail de terrain à faire du coup sur Rieux-Vancia, là, enfin le fort de Vancia. Et ce soir, on participe à un événement organisé en partie par la métropole de Lyon, avec une conférence et une exposition sur les liens entre l'agriculture urbaine et l'architecture. Aujourd'hui, il y a plein de solutions agronomiques, écologiques qui existent, mais qui ne sont pas encore intégrées dans les solutions d'urbanisme ou d'architecture. Et du coup, si les deux secteurs ne travaillent pas ensemble, en fait, on est super limité dans la mise en place des solutions qui existent, quoi.
Et alors, quelles sont vos recommandations?
Nos recommandations, ça va être pour moi d'implanter de la nature en ville, déjà qui n'est pas uniquement paysagère, mais qui a une forte dimension nourricière. En tout cas, d'intégrer cette notion de nourricier dans chaque projet de paysagisme. Et puis, de travailler avec des parcs publics pour éventuellement penser une gestion des espaces en lien avec des animaux. Pour faire du pâturage sur des parcs publics, ce qui permettrait d'avoir à la fois un entretien paysager qui est recherché par les habitants et les collectivités, et aussi des espaces pour faire de l'agriculture, ce qui est recherché par les éleveurs aux alentours, quoi.
Cette agriculture urbaine, ça fait partie évidemment de la transition écologique, hein. Comment est-ce que vous, individuellement, vous en êtes arrivé à monter cette ferme urbaine, cette bergerie urbaine?
Bergerie urbaine, ouais. Alors déjà, moi, je suis pas le fondateur du projet, mais ça a toujours été un projet collectif hein, qui s'appuie sur plusieurs personnes. Bah, du coup, moi, je me suis toujours intéressé au secteur, enfin, aux enjeux de l'alimentation et de l'agriculture. Je suis né en milieu rural, très rural, où du coup, j'ai très vite, entre guillemets, compris les enjeux des agriculteurs et de l'agriculture au sens large, et où du coup, après le bac, je suis arrivé à Lyon et je me suis un peu écarté de ces sujets-là, mais j'ai très vite compris que c'était vraiment un socle de la société hyper important et que l'agriculture pouvait permettre d'aller toucher à plein d'autres domaines, qui sont l'environnement, la biodiversité, l'alimentation, l'aménagement urbain et rural, la pédagogie, la culture, l'artisanat, etc. L'agriculture peut être vraiment une interface pour plein d'autres domaines d'activité. Et du coup, c'est là que moi je trouve le sens là-dedans, c'est que quand on arrive à remettre en place de l'agriculture, on peut réussir à remettre en place plein d'autres choses, et encore plus quand l'agriculture est pensée en projet collectif.
C'est important aussi pour exister au sein du territoire.
Oui, complètement. Et on aime d'ailleurs aussi beaucoup faire des liens avec d'autres secteurs d'activité. On est notamment accompagné par la pépinière d'initiative en Ciela, et où du coup on peut être en lien avec énormément d'autres structures de la transition écologique et solidaire. Et on aime bien travailler, oui, avec plein de secteurs différents. Par exemple, il y a des pâturages itinérants ou des actions culturelles qui vont se greffer à notre animation avec les moutons. Des gens qui vont proposer des lectures ou des spectacles, des choses comme ça. Et c'est des choses qui marchent très bien. Et où là encore, du coup, on se rend compte que l'agriculture peut être source de bien d'autres activités, puisque en fait, la présence des animaux et du vivant en ville va naturellement attirer beaucoup d'habitants. Et des habitants qu'on a du mal à toucher par d'autres canaux plus classiques de communication. Et du coup, ben, grâce à cette présence du vivant et de l'agriculture en ville, on va pouvoir derrière greffer plein d'autres activités qui sont très sympathiques et tout aussi importantes que l'agriculture.
C'est important pour vous de participer à cette transition écologique. C'est quoi votre ressort profond ?
Oui, bah clairement, je pense que ceux qui s'investissent au quotidien dans la bergerie urbaine et dans les structures similaires sont bien sûr portés par ces enjeux de transition écologique globale. Après, c'est vrai que c'est une question difficile à répondre parce que c'est à la fois le quotidien de ce qu'on vit et en même temps, des fois, bah, on se perd aussi dans ce quotidien. Donc, mais on n'oublie pas pourquoi on le fait. Bien sûr, c'est pour proposer des innovations agricoles, redonner un lien aux vivants, aux habitants des villes qui sont souvent malheureusement déconnecté des réalités agricoles et de comment on produit de la nourriture. Et il y a un fort aspect lien social aussi dans ce qu'on fait, puisque la présence des animaux va attirer les habitants qui posent des questions, qui sont ravis de voir des moutons en ville, et où du coup ça va provoquer beaucoup de discussions, on va pouvoir faire du lien interquartier, du lien intergénérationnel, et ça nous tient à cœur aussi, et ça fait partie intégrante de la transition écologique que de se reconnecter les uns aux autres pour essayer de penser des solutions, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Once I had a love and it was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing only to find. Much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Much to mistrust, love gone behind.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Si vous voulez comprendre le monde dans lequel nous vivons, vous suivez la bonne émission. Savez-vous qu'il faut 700 grammes de sable chauffé à 1500 degrés pour fabriquer un kilo de verre ? Maintenant que vous savez cela, la prochaine bouteille de jus de fruits ou de bière que vous croiserez aura peut-être une autre valeur à vos yeux. Pourtant, l'industrialisation en a fait un produit à usage unique, sitôt consommé, sitôt jeté. Choqué par cette situation, Stéphane Robert a confondé « rebouteille » pour relancer le principe de la consigne. Il nous accueille à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon, dans un hangar de 6000 m² au milieu des cartons de bouteilles.
Rebouteille, donc c'est la consigne des bouteilles en verre, comme on a pu le connaître, une grande partie de la population s'en souvient très bien. Le point de départ, c'était vraiment une colère de casser un contenant qui est intact pour le transporter, le casser, le refabriquer à l'identique. Et c'est un peu une aberration dans un monde où les ressources sont limitées. On sait que du verre neuf nécessite quand même de la matière première neuve, même si on peut incorporer jusqu'à 80% de verre recyclé. C'est vraiment cette aberration du système de surconsommation, de l'usage unique des matériaux, d'où la volonté de changer les choses et de remettre en place la consigne des bouteilles en verre.
Alors après, ça semble être une bonne idée. Ensuite, il faut la mettre en pratique. Comment ça s'est passé au départ ?
Alors, le point de départ avec mon associé, c'était d'être accompagné par un incubateur. Donc on est passé par Alter Incube, qui est l'incubateur de l'innovation sociale en lien avec l'Union régionale des SCOP. Et cet accompagnement nous a permis, en premier lieu, d'aller vérifier qu'il y avait bien une demande des potentiels clients, à savoir les producteurs de boissons, de soulever tous les freins qui pouvaient être bloquants pour la mise en place, de trouver des solutions. Et cette étape, elle a mis entre un an et demi et deux ans quasiment pour arriver à faire que toute la boucle fonctionne et de soulever tous les freins rencontrés. Et les principaux freins, notamment, c'est les étiquettes qui ne s'enlèvent pas au lavage, parce que la majorité des bouteilles en circulation, quand je dis la majorité, c'est la très très grande majorité des bouteilles en circulation, ont des étiquettes qui sont des colles permanentes, donc vous pouvez les laver, l'étiquette elle va ressortir intacte. Un autre gros frein, c'était aussi la diversité des formats de bouteilles qui étaient mis sur le marché. Chacun a sa propre bouteille avec sa petite marque, sa teinte, sa spécificité. Et ça, c'est très compliqué à gérer parce que ça veut dire un tri phénoménal, un stockage en conséquence. Et il fallait du coup harmoniser aussi la gamme de bouteilles réemployables.
Ça veut dire que ceux qui utilisent les bouteilles ont accepté de changer leur contenant.
Et ben, c'est le point de départ de la boucle du réemploi, effectivement. Une grosse part du processus, c'est de l'accompagnement des producteurs de boissons. Donc on fait un point avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui comme bouteille, qu'est-ce qu'ils ont comme étiquette. Et si ce n'est pas compatible avec leur emploi, on préconise des références de bouteilles dans une gamme standardisée. On préconise des étiquettes avec une référence précise pour s'assurer qu'elle va bien partir au lavage. Et une fois qu'ils ont fait ce travail de changement, d'adaptation de leur emballage, ils peuvent commercialiser leur boisson dans leur réseau habituel, mais également dans tout le réseau de distribution partenaire de rebouteilles, qui peut du coup récupérer et consigner ces bouteilles.
Et vous collectez combien de bouteilles par an ?
Alors l'an dernier, on a collecté 26 000 bouteilles. Cette année, on vise entre 150 000 et 175 000 bouteilles. L'objectif à terme, c'est d'arriver à 1 million, 1,5 million de bouteilles pour être rentable. Et à très long terme, on peut viser les 10-15 millions de bouteilles à l'horizon 5 à 10 ans.
La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi on a arrêté la consigne ?
C'est la question que tout le monde se pose, en fait. Et il y a plusieurs réponses, en fait. La première, c'est l'apparition des nouveaux emballages en carton, les nouveaux emballages en plastique, qui a généralisé l'usage unique, en fait. On était à l'époque, dans les années 40-50, à faire attention à sa consommation, et l'arrivée du plastique, du carton, des trapacs, etc., a fait qu'on est passé à l'époque des années 60-70, où on avait tout en usage unique, le crayon, le briquet, les rasoirs, c'est cette époque-là où tout est apparu. Et l'usage unique pour les producteurs, c'était beaucoup plus simple parce qu'ils se déchargeaient sur la collectivité locale de la gestion de leurs emballages, leurs déchets en fait. Et c'était un moment où j'imagine qu'un producteur qui avait une ligne de lavage en amont de sa ligne d'embouteillage, le jour où il fallait réinvestir pour remettre à jour la ligne de lavage, il s'est dit on va changer, on va passer sur du carton, on va passer sur du plastique. Et comme ça, on s'occupe plus du retour des bouteilles. Et ça fait des économies pour le producteur. Mais par contre, les collectivités locales se sont retrouvées envahies de déchets. C'est pour ça que l'éco-organisme a été mis en place pour assurer la collecte de ces déchets, la création de centres de tri, la création de centres de recyclage.
Qu'est-ce qui donne envie aux producteurs de boissons de venir travailler avec vous ? Parce que c'est une contrainte, évidemment.
Alors c'est une contrainte et c'est aussi un positionnement pour eux en fait, c'est-à-dire que, ou une philosophie. Il y en a qui ne voient pas ne pas faire la consigne parce que c'est tellement ancré dans leur façon de penser, dans leur développement économique, d'avoir un impact environnemental le moins élevé possible. Ils sont, c'est pas la majorité, mais il y en a quelques-uns, c'est les précurseurs, c'est avec ceux-là qu'on a commencé. Après, il y a ceux qui voient ça comme un élément différenciant par rapport à de la concurrence, donc qui se positionnent sur un marché qui devient un peu plus vert, un peu plus vertueux. Et après, il y a ceux qui viennent par une approche aussi économique en se disant bah, ça coûte un peu moins cher, ça va coûter moins cher encore à long terme parce que les prix vont baisser. Donc il y a plusieurs approches en fait.
Oui, c'était aussi une des questions que je voulais vous poser. Est-ce que c'est rentable ?
Alors actuellement non, mais à terme, on vise une rentabilité en 2024 à partir d'un seuil de bouteilles qui va avoisiner les 1 million de bouteilles. La marge, elle se fait principalement sur le lavage. En fait, la collecte, tout ça, c'est des coûts qui sont assurés et qui doivent être compensés par la marge faite sur le lavage. C'est-à-dire qu'il faut assurer du coup la collecte, le lavage, la mise en place du système, la coordination pour 40 centimes par bouteille, quoi. Même un peu moins pour faire de la marge.
Il y a une question d'échelle sur cet enjeu de la consigne. C'est quelque chose qui devait passer dans la loi française, puis qui finalement a été retoqué. Pourquoi est-ce que ça bloque, alors que quand on vous écoute, on se dit que c'est tellement évident ?
Moi, je pense que c'est des histoires de lobbying. Il y a des acteurs qui sont tellement gros et ils sont en opposition par rapport à ça. Pour eux, c'est une forme de régression. Et du coup, il y a un lobbying qui s'est mis en place. Et on l'a vu lors des lois climat et lors de la loi AGEC. Il y a le lobbying du vin qui est allé voir le ministre de l'Environnement pour s'opposer à cette loi. On s'est mobilisé, nous, à cette époque aussi, pour interpeller nos députés, les rencontrer, faire passer des amendements dans le cadre, avec le soutien de Zero Waste France et du réseau Consigne. Je pense qu'on n'a pas eu le même impact que d'aller prendre un rendez-vous avec la ministre directement.
Et qu'est-ce qui fait que, du coup, face à cette inertie, on peut changer d'échelle ? C'est le comportement du consommateur qui réclame la consigne ?
Effectivement, le consommateur a un rôle important à jouer. C'est un rôle de moi, consommateur, je veux la consigne, je veux pouvoir la remettre en place. Et donc, si il interpelle son distributeur habituel, son petit commerce de quartier, en lui disant bah, « c'est dommage, la consigne, ça existe, pourquoi vous ne la mettez pas en place ?» Eh bien, ça fait effectivement, ça fait prendre conscience au distributeur que ça, c'est une demande actuelle, c'est une demande de la société. Il y a des sondages qui l'indiquent d'ailleurs, 90% des Français sont favorables au retour de la bouteille consignée. Donc c'est une vraie tendance et il faut en parler à son magasin habituel pour qu'il comprenne ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Martin Durigneux, en tant que président d'Anciela, qui est donc cette association lyonnaise qui accompagne les personnes qui souhaitent se lancer dans cette économie de la transition à travers une pépinière d'initiatives, où vous avez aussi fondé l'Institut Transition qui accompagne des professionnels en reconversion. Vous avez donc cette possibilité d'observer qui sont les personnes qui se lancent dans cette nouvelle économie. Est-ce qu'il faut être particulièrement créatif, inventif, diplômé pour faire cela, comme on vient de l'entendre à travers les trois exemples dans la mobilité, la réduction des déchets, l'agriculture urbaine, où tout le monde peut finalement participer ?
Le premier message qui est le nôtre, que ce soit Anciela ou Institut Transition, c'est de dire tout le monde peut participer à la transition écologique et solidaire, et surtout, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde parce que c'est toute notre société qui est engagée dans cette transformation. Il ne s'agit pas de trouver les 3 pépites ou les 5 pépites ou les 12 pépites qui changeront le monde. Ça n'existe pas dans des grandes transformations de civilisation. Il n'y a pas 12 personnes qui changent le monde. Il y en a des millions et des millions qui, là où elles sont, se bagarrent avec la réalité dans laquelle elles sont pour que le monde soit un peu moins moche le lendemain, un peu meilleur, que la nature soit un peu plus restaurée, un peu plus protégée, que les vies humaines soient un peu... on en prenne un peu plus soin. Pour moi, un des enjeux clés, c'est de se dire on arrive avec ce qu'on a, en fait. Et ce qu'on a, c'est pas suffisant. C'est jamais suffisant, parce que les défis sont devant nous. Si on parle de transition, c'est que des trucs qu'on sait pas faire qui sont devant nous, souvent. Et donc, on a, nous, quand on parle de notre institut, on a un programme qui s'appelle Nouvelle Voie, où on accompagne des personnes en évolution professionnelle. On a des personnes qui arrivent avec le bac, qui ont une vie professionnelle riche, avec plein d'apprentissages. On a des personnes qui arrivent avec un doctorat en physique des systèmes complexes. Et c'est pas plus simple pour eux. Ils vont devoir partir de ce qu'ils ont et se dire, bon, en fait, là où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie d'apporter au monde, parfois c'est la première fois qu'ils se posent la question de ce qu'ils ont vraiment envie d'apporter au monde. Ils ont suivi un parcours de non-choix en se disant, je vais aller à la fac, puis après je vais suivre ça, puis après j'ai un CDI, puis après j'ai un boulot qui me permet ceci, etc. Et ils se retrouvent, en fait, à se dire, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment apporter ? Et là, ils vont réfléchir à ce qu'ils vont devoir apprendre, ce qu'ils vont devoir comprendre, ce qu'ils vont devoir savoir faire pour donner le meilleur d'eux-mêmes au service d'une société écologique et solidaire.
Et est-ce que ce n'est pas plus facile dans les pays dits riches ?
C'est paradoxal, on va dire, parce que dans les sociétés qui sont développées, entre guillemets, on a construit un lien au vivant et un lien aux autres qui est particulier, qu'on, dans une certaine mesure, on doit détricoter. On a des représentations de la richesse qu'il faut détricoter, on a des représentations de la croissance qu'il faut détricoter. En même temps qu'on est dans une situation de confort qui est quand même significativement meilleure, et il y a des urgences économiques, des urgences écologiques, même des urgences sociales qui sont significativement moins dramatiques. Donc effectivement, on peut se dire que de prime abord, c'est plus simple. Mais à vrai dire, je veux dire, c'est pas vraiment la question, parce qu'en fait, c'est nécessaire ici et c'est nécessaire partout. Donc pour moi qui ai grandi au Maroc, qui ai toujours eu des liens privilégiés avec le monde africain, c'est encore davantage nécessaire d'un certain point de vue de renouer avec le vivant, de préserver la nature, de préserver les solidarités, de réussir un développement écologique, social, solidaire, convivial, qui permettent aux sociétés africaines de préserver leur identité et de construire le monde de demain avec ce qu'elles sont. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il s'agit de se dire, aujourd'hui, on parle de low-tech, on parle de technologies robustes et simples, on parle d'agriculture biologique, de permaculture. C'est des savoirs qui nécessitent de, à la fois, se plonger dans des savoirs très, très innovants, très, on va dire, complexe d'un point de vue scientifique, et en même temps très lié à des savoirs anciens, ancestraux, qu'on a pu, on va dire, fabriquer depuis des générations. Et ce terreau-là, il n'est pas plus riche dans les sociétés du Nord, entre guillemets, que dans les sociétés qu'en Amérique latine, en Afrique, ou en Asie du Sud-Est, ou en Indonésie. C'est des enjeux où on doit tous s'y mettre, et donc on s'y met avec ce qu'on a, où on en est, et on a dans notre institut des gens qui ont 55 ans, avec un passé d'ingénieur en biochimie, et on a des gens qui ont 26-27 ans, qui sortent d'études, on va dire, avec un BTS en agronomie, et qui se mettent à fond pour que ça avance. Et c'est, je dirais, tout aussi riche et tout aussi pertinent, parce que dans tous les cas, c'est nécessaire.
Et est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fait d'études ?
Pas fait d'études en France, c'est assez difficile. Pour le coup, j'enverrais plutôt les auditeurs à se plonger dans une école qui existe en France, qui s'appelle l'école Être, pour école de la transition écologique, qui est sur des parcours de ce qu'on appelle les décrocheurs, donc des personnes qui ont clairement un parcours cassé et compliqué au niveau scolaire, et qui vont par les métiers du manuel, mais enrichis avec des approches philosophiques, éthiques, politiques, se reconnecter à eux-mêmes, se redonner une confiance en eux, et devenir des travailleurs de la transition. Nous, on a plutôt des gens qui, même s'ils ont très peu d'études, ont en fait plutôt eu des parcours assez riches dans leur vie professionnelle, et sont sur un dépassement, sur un plus. Il faut les deux parce qu'on a les deux profils dans notre société en France.
En tout cas, ce que vous constatez, c'est que la dynamique est en marche.
Ça, sans aucun doute. La dynamique est en marche. Et encore une fois, je le dis toujours, pas parce que c'est chouette, parce que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, on est des personnes intelligentes, on est des personnes dignes, on est des personnes vivantes. Et on ne se laissera pas faire par le dérèglement climatique, on ne se laissera pas faire par la destruction de la biodiversité. C'est certes nos sociétés qui l'ont causé. Et on ne doit pas se laisser faire aux erreurs, entre guillemets, ou aux fragilités que nos sociétés ont fabriquées. On doit se battre pour les corriger et on va le faire. Et pour ça, il y a du boulot et oui, c'est en mouvement. Heureusement, c'est en mouvement. Pas assez vite peut-être, pas autant qu'on le souhaiterait, pas toujours dans la direction qu'on aimerait avoir, mais c'est en mouvement.
Et c'est un mouvement qui va continuer à s'amplifier. Vous trouverez les coordonnées de tous les intervenants sur la page internet de l'émission. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur votre vision de la transition écologique ou sur ce que vous faites au quotidien pour préserver l'environnement, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.